Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers auditeurs pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire consacrés tout spécialement à la Renaissance. Nous avons déjà vu et travaillé sur l'art de la Renaissance, l'inspiration antique, et je suis très heureux de retrouver à nouveau aujourd'hui Hugues Dossy pour une deuxième partie toujours consacrée à l'art de la Renaissance, mais cette fois à l'innovation. Hugues Dossy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire moderne, vous enseignez à l'université de Franche-Comté, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Je me contenterai de citer le parti Huguenot, chronique d'une désillusion, un livre paru chez Droz en 2014 et qui a reçu un prix prestigieux, le prix Chateaubriand, en 2014. Hugues Dossy, on considère que l'art de la Renaissance est très fortement inspiré de l'art antique et qu'il répond au désir de retour aux sources formulé par les humanistes. Mais les artistes, est-ce que les artistes se sont-ils contentés d'imiter les anciens ou bien ont-ils innové?
Alors, les hommes de la Renaissance sont pris dans une tension. Une tension qui les écartèle entre leur conviction que l'Antiquité incarnait une perfection indépassable, et la réalité à laquelle ils sont confrontés, et qui les conduit souvent, finalement, à dépasser cette perfection antique. Et l'art incarne parfaitement cette tension, puisque si les artistes de la Renaissance considèrent que les anciens avaient des techniques, des modes de représentation qui incarnaient une perfection, ils n'en ont pas moins, à leur tour, apporté leur contribution à l'évolution artistique et proposé des innovations dans le domaine technique. Et il y a l'idée de progrès dans l'art ici, qui peu à peu s'affirme au fil des 15e et 16e siècles.
Je reviens sur l'idée de rupture dont nous avons parlé à l'occasion donc de la toute première émission sur l'inspiration antique. Est-ce qu'il y a une continuité sur ces innovations avec le monde médiéval malgré tout?
Alors non, là on peut dire que dans le domaine de l'innovation artistique, on a une vraie rupture, c'est-à-dire qu'on va avoir de nouvelles techniques, de nouvelles modalités de représentation qui rompent réellement avec les modalités et techniques médiévales.
Alors précisément, dans le domaine pictural, et notamment dans celui de l'utilisation de la couleur, quelles ont été les principales innovations?
Alors la principale innovation dans le domaine de la couleur, c'est l'apparition de la peinture à l'huile. Jusqu'à présent, au Moyen-Âge et au début de la Renaissance, il y a deux techniques picturales, c'est la fresque. On peint sur du plâtre frais, donc ça a une contrainte, c'est qu'on doit peindre très vite à la perfection parce que les retouches sont presque impossibles. Et puis ça a un autre inconvénient, c'est que les compositions souffrent de l'humidité et se dégradent très rapidement. L'autre technique, c'est celle de la détrempe. On peignait à base d'une peinture qui était fabriquée par le mélange de pigments colorés avec des solutions aqueuses ou oléagineuses. Et la détrempe la plus célèbre, c'est la détrempe à l'œuf. Et forcément, cela donnait des compositions qui étaient certes souvent très bien réussies, mais qui manquaient de brillant, qui manquaient un petit peu de luminosité, et surtout qui étaient très difficiles à retoucher, parce que forcément, la peinture séchait assez vite. Or, vers 1420, aux Pays-Bas, dans l'entourage de Jan van Eyck, qui est un artiste très important de cette époque pour l'art du Nord, est apparue une nouvelle technique, une nouvelle manière de lier les pigments colorés en utilisant de l'huile. Et cette peinture à l'huile révolutionne complètement la peinture, tout simplement parce qu'elle permet non seulement de représenter des matières qu'on pouvait difficilement représenter au préalable, tout ce qui est matière transparente, le verre, les perles par exemple, de donner un brillant incomparable aux compositions, de permettre une infinité de nuances, parce que la peinture à huile permet des mélanges beaucoup plus subtils, mais aussi de retoucher pendant beaucoup plus longtemps les toiles, puisque l'huile sèche très lentement. Donc c'est une véritable révolution qui va toucher ensuite l'Italie, d'abord par Venise, c'est Venise qui est la première touchée par la peinture à l'huile, et ensuite s'étendre à toute la péninsule et au-delà.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont les artistes eux-mêmes qui, finalement, ont une démarche quasi scientifique par le développement de ces nouvelles techniques?
Oui, ce sont eux qui ont cette démarche scientifique, une démarche scientifique qui est propre à la Renaissance. L'humaniste, ce n'est pas simplement un peintre, un architecte, un philosophe, c'est un homme qui pratique toutes les disciplines. Il y a un décloisonnement des disciplines à la Renaissance qui en est caractéristique. Et les peintres, donc, sont aussi des scientifiques ou des philosophes. Ce sont eux qui fabriquent eux-mêmes leurs peintures.
Alors, la représentation de l'espace est au centre hein, de la Renaissance, notamment de l'espace tridimensionnel. On se souvient des portraits médiévaux qui étaient des portraits de Jean de Lebon de profil. Donc, l'espace tridimensionnel, c'est une innovation pour les artistes de la Renaissance ?
Oui, parce que le souci des artistes de la Renaissance, c'est de représenter le réel, la réalité. Or, pour représenter la réalité, on est obligé de tenir compte de l'aspect tridimensionnel. Et ce qui est fondamental, c'est l'idée de perspective. Cette perspective, elle est le souci à la fois des artistes du Nord et des artistes italiens, mais ils y répondent de manière différente. Au Nord, on représente la perspective de manière intuitive. On appelle ça la perspective aérienne. Alors, c'est aussi dans l'entourage de Jan van Eyck que cette perspective aérienne se développe. En fait, on représente la perspective grâce à l'utilisation de la couleur, grâce à un dégradé subtil, grâce à un épaississement de l'air qui permet de rendre des objets d'arrière-plan plus flous. C'est ce qu'on appelle la perspective aérienne, mais il n'y a aucune construction mathématique. La perspective est liée à l'appréhension du spectateur, à l'œil, il a l'impression de profondeur, mais ça s'arrête là. En revanche, en Italie, en raison de la pénétration intellectuelle du fait artistique, on a une perspective qu'on dit mathématique, qui est construite grâce à des lignes de fuite, donc de manière extrêmement rationnelle. Et c'est dès la décennie 1420, entre 1420 et 1430, que Masaccio est le premier peintre italien à adopter cette technique mathématique pour représenter la perspective. Et par la suite, eh bien, on retrouvera cette construction extrêmement fréquemment dans les tableaux italiens. On pense par exemple à l'école d'Athènes de Raphaël, qui est une fresque peinte en 1509 pour le Vatican, où on voit cette perspective mathématique parfaitement représentée. On voit que la ligne de fuite centrale du tableau passe entre la tête de Platon et celle d'Aristote. Quand on voit le tableau, c'est particulièrement révélateur. Et puis aussi, les artistes italiens ont voulu théoriser cette perspective. Et on a notamment Piero della Francesca qui a publié en 1482 un traité intitulé « De prospectiva pingendi » qui est entièrement dédié à cette théorie mathématique de la perspective.
Ce décloisonnement, cette absence de spécialisation est littéralement bluffant. Alors, dans la représentation du corps humain, en quoi constate-t-on également une rupture avec le monde médiéval ?
La statuaire médiévale, c'est une statuaire immobile, hiératique. Les personnages sont représentés souvent dans des niches. On ne peut pas en faire le tour. On les voit de face, ils ont le corps recouvert souvent d'une grande robe à plis. Et puis, il n'y a pas de mouvement. Or, à la Renaissance, grâce à la redécouverte de l'art antique, on a à nouveau le souci de représenter la dynamique des corps, le mouvement. Or, pour représenter cette dynamique des corps, eh bien, il faut connaître les mécanismes du corps humain. Et c'est la raison pour laquelle les artistes de la Renaissance sont beaucoup intéressés à l'anatomie. Et pour s'intéresser à l'anatomie, ils n'ont pas hésité à disséquer des corps humains. Léonard de Vinci, par exemple, disséquait beaucoup de corps humains afin de pouvoir connaître la manière dont les muscles, les nerfs, faisaient se mouvoir le corps, bien connaître la structure du squelette. Et ils ont aussi adopté une technique qui était en vigueur dans l'Antiquité, qui était ce qu'on appelle la technique du hanchement, c'est-à-dire que les personnages ne sont pas décrits de manière statique, posés sur leurs deux jambes, mais il y a toujours une des deux jambes qui est pliée, en entraînant un léger mouvement du bassin vers l'avant et qui donne l'impression que le personnage va bouger. Hein, ce hanchement, ce que les Italiens appellent le contrapposto.
Et on retrouve, que ça soit en sculpture ou en peinture, la même recherche sur le corps humain.
Oui, absolument. Alors, il se trouve que elle est particulièrement utile pour la structure, sculpture, puisque on sculpte ce qu'on appelle en ronde bosse, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les statues, on peut tourner autour, hein, donc toutes les parties sont intéressantes. On pense au David de Michel-Ange, par exemple, qui est une statue emblématique qui mesure 4 mètres de haut et qui est frappée d'un, d'un dynamisme particulièrement important. Et dans le domaine de la peinture, quand on représente des nus, là aussi, on a besoin de connaître parfaitement les mouvements du corps humain.
Mmh. Alors, l'époque, c'est aussi l'invention de l'imprimerie. Est-ce que des innovations artistiques sont liées à l'invention de l'imprimerie ?
Oui, il en est une particulièrement importante, c'est la gravure. La gravure, qu'il s'agisse de la gravure sur bois, la xylographie, qui repose sur la technique de la taille d'épargne, c'est-à-dire qu'on va entailler le panneau de bois pour ne laisser saillant que les formes qui devront être reproduites, ou alors la gravure sur cuivre, qui permet un modelé beaucoup plus fin. Ces deux techniques-là donnent naissance à ce qu'on appelle les estampes, c'est-à-dire des impressions de ces gravures qui sont souvent glissées dans des livres ou imprimées de manière individuelle. Il y a d'autres techniques, par exemple, comme l'eau forte. L'eau forte qui consiste à recouvrir la plaque de métal d'un vernis, d'entailler le vernis selon les contours du dessin que l'on veut reproduire, et ensuite de plonger cette plaque de métal recouverte de vernis entaillé dans de l'acide, et l'acide vient creuser le métal seulement à l'endroit où on voulait reproduire le dessin, et ça donne des compositions beaucoup plus fines et beaucoup plus ciselées. Voilà. Donc il y a des artistes spécialistes de ces techniques. Le grand graveur de la Renaissance, c'est Albrecht Dürer, qui est un Allemand et qui est connu pour ses gravures, mais il y en a d'autres, hein, Schongauer, Altdorfer, Lucas Cranach, tous ont développé cet art de la gravure.
Et dans les arts décoratifs, on observe aussi des innovations ?
Oui, alors il y a des innovations qui consistent souvent en la remise à l'honneur de techniques un peu oubliées, ou en l'importation de techniques, ou dans leur développement. La marqueterie, par exemple, est une technique qui est particulièrement développée à la Renaissance. On arrive à représenter, grâce à des essences de bois variées, à des teintures, on arrive à représenter des panneaux qui ressemblent finalement à des peintures, hein, qui sont particulièrement réalistes. On pratique le trompe-l'œil souvent d'ailleurs grâce à ces techniques de marqueterie. On pense plus particulièrement au studiolo du duc Federico da Montefeltre, qui était le duc d'Urbain. Et le studiolo, c'est un cabinet d'études, un cabinet de curiosité dans lequel l'humaniste entreposait ses objets d'art, ses instruments de musique, qu'il faisait visiter à ceux auxquels il voulait montrer qu'il était un brillant intellectuel. Et dans le studiolo de Montefeltre, on voit que tous les placards de son studiolo sont réalisés en marqueterie et en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les portes sont ouvertes et on voit représenter des instruments de musique, des instruments de mesure, etc., alors qu'elles sont parfaitement fermées, hein. C'est particulièrement révélateur. Et puis il y a aussi des meubles qui sont réalisés en marqueterie. Il y a une autre technique, celle du damasquinage, qui provient, c'est de l'art islamique, hein, damasquinage, ça vient de Damas, et c'est une technique qui consiste à souligner le dessin sur du métal par des fils d'or et d'argent qui viennent broder, en quelque sorte, ce métal. On pratique beaucoup pour les armures, par exemple. Il y a d'autres techniques, encore le niellage, qui consiste à souligner, à orner des plaques de métal avec des émaux de couleur noire, ou encore, par exemple, les médailles qui sont le goût de la médaille qui provient de l'Antiquité. On frappe et on coule, on fond beaucoup de médailles à l'époque renaissante.
Les deux grands foyers de ce processus d'innovation, nous en avons parlé, c'est l'Italie et les Flandres. Est-ce que ces deux univers se côtoient, communiquent ensemble sur ces techniques, sur ces innovations ?
Alors oui, ils communiquent à la fois indirectement et directement. Indirectement, parce que l'observation des œuvres des Italiens par les hommes du Nord et l'observation des œuvres du Nord par les Italiens leur permet de prendre connaissance des techniques les uns des autres, mais aussi parce qu'il y a un déplacement des hommes et des œuvres qui permet justement cette prise de contact. Toutefois, il est certain que les contacts, même s'ils existent, restent quand même relativement rares. Et il y a quelques artistes du Nord, notamment Dürer, que j'évoquais tout à l'heure, qui ont été particulièrement sensibles aux modes italiennes. D'ailleurs, Dürer a fait des voyages en Italie. Il a voyagé deux fois à Venise. Et il était particulièrement sensible, Dürer, au statut de l'artiste en Italie. Parce que dans le Nord, les artistes étaient toujours accablés par la conception très manuelle du rôle de l'artiste, qui était toujours finalement frappé par les stigmates du travail manuel. Alors qu'en Italie, c'est le fait intellectuel qui avait pénétré justement le domaine artistique. Et il écrivait à ses correspondants, notamment à son mécène principal de Nuremberg, qui était Willibald Pirckheimer. Il lui écrivait de Venise, « Ici, je suis un seigneur, là-bas, un parasite. » Hein, ce qui montre bien la différence du statut de l'artiste entre le Nord et le Sud. Mmh. Donc Dürer est l'un des artistes qui a été le plus influencé par l'Italie.
Les périodes d'innovation dans l'histoire sont toujours liées à une forme d'optimisme en l'homme. Est-ce que on retrouve cette même idée chez ces peintres, chez ces sculpteurs, chez ces artistes de la Renaissance ?
Oui, comme tous les humanistes, comme tous les hommes de la Renaissance, ils sont convaincus des potentialités de l'homme, de la place centrale de l'homme dans la création, de ce progrès que l'homme peut accomplir par l'éducation. Et donc, ils ont véritablement ce sentiment d'optimisme. Et dans les représentations artistiques, l'importance que l'on accorde à la psychologisation, en quelque sorte, du portrait, par exemple, à la profondeur psychologique du portrait, montre cette place très importante de l'homme qui est accordée par les hommes de la Renaissance.
Merci beaucoup, Hugues Dossy. Donc, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien et que nous avons entamé ensemble tout un parcours autour de la Renaissance, parcours qui va se terminer avec Léonard de Vinci dans une très prochaine émission. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir. Rendez-vous dans la rubrique Soutenez-nous, disponible dès la page d'accueil de notre site Storia Voce. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.